Anne-Sophie Hébert, présidente départementale, et François Soulard, délégué départemental du Secours catholique, sont les invités de Radio Prévert à l'occasion de la publication du rapport 2023 sur l'état de la pauvreté. Bonjour madame, bonjour monsieur.
Bonjour.
Merci de nous accueillir dans vos locaux au Mans, puisque Radio Prévert se trouve rue de la Mission, c'est ainsi qu'on appelle la rue où vous êtes situé au Mans.
Voilà, donc c'est une rue historique, puisque le Secours catholique est là depuis au moins 50 ans.
Alors merci donc de nous accueillir pour évoquer ce rapport sur l'état de la pauvreté. Si j'ai bien compris, ça remonte à quelques années maintenant que le Secours catholique a pris l'initiative d'éditer pareil document.
Donc en fait, oui, le Secours catholique depuis une trentaine d'années, aujourd'hui présente un rapport qui dit quelle est la situation des personnes que nous rencontrons en France. Et donc nous avons essayé de faire un point focal sur les personnes que nous rencontrons en Sarthe.
Alors le contexte, on va bien préciser, on dit rapport 2023 sur l'état de la pauvreté, mais l'enquête a été menée en 2022.
Voilà, c'est sur les chiffres 2022, puisque de fait, on marche en année civile. Bon, l'année 2023 n'est pas terminée, donc il faut un peu de temps pour pouvoir traiter les statistiques. Donc c'est bien sur la période 2022.
Alors quelles sont les principales conclusions de ce rapport 2023 ?
Alors, de fait, aujourd'hui, dans les statistiques que l'on sort, il y a plusieurs éléments. Le premier élément, c'est que la pression de l'inflation sur les personnes les plus pauvres s'est intensifiée et a un impact beaucoup plus important que sur d'autres situations de personnes. Aujourd'hui, en Sarthe, je vais peut-être un petit peu jargonner sur la question des statistiques. On parle du seuil de pauvreté. Le seuil de pauvreté, c'est quelque chose qui est calculé au niveau de l'INSEE. 90% des personnes que nous recevons sont en dessous du seuil de pauvreté. Et en Sarthe, et 80% sont dans une situation d'extrême pauvreté. Donc les personnes que nous rencontrons et qui viennent nous voir sont les personnes les plus fragiles et qui n'ont pas le choix parce que voilà, la situation est devenue dramatique. Et donc quand on regarde la situation des personnes, on se retrouve avec un niveau de ressources médian, enfin voilà, donc ça je vous l'expliquerai si vous voulez, c'est 444 euros. En fait, ce qu'il faut juste se dire, c'est que si vous divisez 444 par 30 jours, ça veut dire qu'il vous reste en moyenne 15 euros par jour pour tout payer, y compris le logement. Et c'est important de pouvoir entendre ça, et ça c'est une équation qui est quasi impossible pour un certain nombre de familles. Donc pour pouvoir survivre, elles ont besoin de pouvoir aller vers les associations caritatives, qui peut être d'autres associations, mais qui est aussi le Secours catholique.
Alors comment procédez-vous, Anne-Sophie Hébert, pour faire cette étude statistique ? Est-ce que c'est de façon volontaire que les gens vous répondent et vous leur dites d'emblée ce à quoi ça va servir ?
On leur dit pas forcément ce à quoi ça va servir, mais oui, on les informe et on leur demande leur autorisation de prendre les données. C'est-à-dire quand on reçoit une personne, le Secours catholique, vraiment ce qu'on souhaite faire, c'est rencontrer les personnes. Donc on a vraiment des entretiens et des rencontres avec les personnes. Donc quand on rencontre une personne qui vient nous voir, on remplit un dossier d'accueil, c'est-à-dire que en général on est en binôme, c'est deux bénévoles qui reçoivent une personne. On mène l'entretien en essayant de rester le plus confortable possible pour la personne, mais tout en prenant des notes pour à la fois nourrir ce dossier statistique et puis tout simplement pour avoir des informations sur la personne quand on va la revoir une deuxième fois. Puisque dans le meilleur des cas, ce qu'on souhaite, c'est accompagner la personne sur une durée, un temps donné. Et donc, quand elle revient nous voir, on peut retrouver les informations, la situation et pouvoir voir quelle est l'évolution de la situation.
Anne-Sophie est souvent dans le temps d'accueil. Donc, ce qu'il faut entendre, c'est qu'en fait, on ne fait pas des statistiques pour faire des statistiques. Ce qui nous importe aujourd'hui, c'est la rencontre, c'est ce que dit Anne-Sophie, c'est la rencontre avec les personnes. Et au travers des chiffres qui sont donnés, c'est de comprendre la situation dans laquelle est la personne. Parce que notre objectif, ce n'est pas juste de répondre oui ou non, c'est de se dire, est-ce que tous les droits des personnes ont été respectés ? Et donc c'est ça notre sujet en fait. Et donc dans les éléments que l'on pose en termes de questions, c'est de se dire bon ben est-ce que le droit aux minima sociaux il a été activé, il n'a pas été activé, est-ce que la rencontre avec tel ou tel interlocuteur s'est fait ou pas. Donc par exemple est-ce que ici sur par exemple sur le Mans, est-ce que les gens ont été voir les Restos du Cœur, est-ce qu'ils savent qu'il y a quand ils sont à la rue qu'il y a une maraude et est-ce qu'ils peuvent ils ont été rencontrés à la maraude. Enfin c'est ce qu'on essaye de faire, c'est de recréer du lien pour que toutes les ficelles qui permettent de survivre soient activées pour les personnes que l'on rencontre.
Alors, François Soulard, vous nous expliquez donc les grandes conclusions de ce rapport 2023 sur l'état de la pauvreté en Sarthe. Est-ce que vous avez pu dégager les personnes qui sont les plus touchées? Est-ce qu'il y a des publics que vous avez pu identifier qui sont impactés par ce contexte inflation, aggravation de la pauvreté que vous décrivez?
Donc aujourd'hui, en Sarthe, 70% des personnes que l'on rencontre sont des femmes. C'est un élément important, ce qui est plus qu'aujourd'hui au niveau national. On n'arrive pas toujours à expliquer rationnellement les choses. Ce qu'on se dit aujourd'hui, c'est que c'est vraiment les femmes qui vivent la pauvreté le plus durement possible, notamment lorsqu'elles sont avec des enfants. Et donc, elles viennent nous rencontrer parce qu'elles n'ont pas d'autre solution et qu'elles cherchent un soutien et une solution à terme. Et puis on a dans notre population, on a commencé à avoir un peu plus de personnes âgées, c'est-à-dire que de fait on a une augmentation, alors c'est pas une majorité, hein, on est à 11%, mais c'est de personnes qui ont plus de 60 ans, et ces personnes-là c'est un nouveau public pour nous, parce que ce sont des personnes qui arrivent soit en rupture de droit, enfin Anne-Sophie pourra en parler, de donner quelques exemples, soit en rupture de droit, soit pas tout à fait encore à la retraite, ou qui ont un accident de la vie juste à ce moment-là. Et avant, en fait, les personnes retraitées avaient un petit peu un matelas, on va dire ça comme ça, ou une espèce de sécurité. On s'aperçoit qu'un certain nombre de personnes aujourd'hui qui viennent nous rencontrer n'ont plus cette sécurité-là, et donc elles ont vraiment besoin de pouvoir être aidées en tant que telles. Donc c'est plutôt une alerte en disant l'accentuation de la pauvreté et l'impact de l'inflation est plus fort sur l'ensemble des catégories de la population française, et il n'y a pas de personnes qui en réchappent, si on peut dire ça comme ça.
Alors Anne-Sophie Hébert, justement, ces personnes âgées, qu'est-ce qu'elles vous disent en venant vous rencontrer? Je suppose que pour certaines, c'est une situation difficile à vivre.
Ce sont des situations très difficiles. Bien souvent, les femmes, quand elles viennent nous voir, c'est qu'elles ont vécu une séparation. Dans le cas des personnes âgées, ça peut être une séparation, ça peut être un veuvage. Voilà, j'ai en mémoire la situation de Marie-Jeanne qui est venue nous voir récemment. Parce que elle a perdu son mari cette année, elle a encore une fille à charge, une fille étudiante au Mans, alors qu'elle vit assez loin, donc de façon assez isolée. Et la solidarité, en tout cas les aides sociales ne s'étant pas encore mises en place, elle se retrouve dans une situation particulièrement difficile et elle parvenait plus à assurer les besoins d'elle et de sa fille et payer l'ensemble des factures. Donc il y a ce genre de situation. On a des situations, une autre personne qu'on a reçue récemment dans une équipe locale aussi, venait de se séparer après 30 ans de vie commune. Donc ça malheureusement, c'est des choses qui arrivent aussi quand on est âgé. Et donc c'est une dame qui a eu du mal à gérer la vie seule, parce que bien souvent, les femmes ne sont pas celles qui prennent en charge les questions financières ou voilà, donc elle s'est retrouvée dans une difficulté pour gérer ses contrats d'énergie, des choses comme ça, et elle s'est retrouvée avec des dettes impossibles à régler à un âge très avancé, puisque quelques temps après nous avoir rencontrés, elle est rentrée en EHPAD. Donc vous voyez que les situations sont à tout âge de la vie, les situations des femmes sont compliquées, sont difficiles quand elles se séparent.
François Soulard, et les jeunes dans tout ça?
Alors de fait, on a un public de jeunes étudiants, par exemple, qui ne vient peu nous voir, nous, aujourd'hui, au Secours catholique. Alors est-ce que c'est la question des horaires? Est-ce que c'est... Donc c'est pas la surreprésentation des jeunes. Quand on parle jeunes, on parle plutôt des jeunes de moins de 20 ans. Voilà. Okay. Donc les jeunes de moins de 20 ans sont quand même peu ceux qui sont présents, qui viennent nous voir directement. Mais par conséquence, on a un certain nombre de familles et donc avec des enfants qui sont présents dans les accueils que l'on a. Et donc c'est aussi un point d'attention pour aider les familles à pouvoir survenir à leurs besoins.
Alors, on fait le constat avec vous que la pauvreté s'aggrave. Vous évoquez une situation dramatique et les conséquences, je suppose que vous les évoquez aussi avec vos interlocuteurs. Et qui sont ces interlocuteurs-là, pouvoir public et autres ?
Alors, c'est un petit peu compliqué. Hein. C'est ce qu'on essaye de faire aujourd'hui au travers de la sortie de ce rapport-là, c'est d'alerter. Et surtout ne pas stigmatiser. Enfin, c'est un peu ces deux choses-là. On aurait tendance aujourd'hui très facilement à pouvoir considérer que si les gens sont pauvres, c'est parce que, alors je vais faire un raccourci parce que c'est ce qu'on entend de temps en temps, c'est des feignants, entre guillemets. Voilà. Nous, aujourd'hui, on voit un certain nombre de personnes qui sont mobilisées, qui sont en difficulté, vraiment, et que sur la question de la mobilisation vers l'emploi, par exemple, on a des jeunes femmes qui disent ben, « Nous, on aimerait bien travailler, mais on ne nous autorise pas à pouvoir le faire. » Ou d'autres qui disent comme ça ben, « Oui, moi, j'aimerais bien travailler, mais je n'ai pas automatiquement la formation qu'il faut. Mais en même temps, je ne sais pas où je vais loger ce soir. J'ai quand même des enfants scolarisés. J'ai quand même à assurer la vie quotidienne de ma famille. Donc, voilà, toutes ces complexités, et je suis seul pour pouvoir le faire. Nous, ce qu'on voit, c'est qu'il y a un certain nombre de femmes et d'hommes qui se battent au quotidien pour pouvoir résoudre la pauvreté. Donc, dans notre interpellation, c'est ce qu'on essaie de faire entendre aussi au niveau des médias, en disant ne stigmatisons pas trop vite, n'essayons pas de rentrer dans des débats un peu stérile entre guillemets. Donc, quand je dis ces sujets-là, nous ne sommes pas favorables, par exemple, je vais donner un exemple très concret, au fait que l'on dise il faut absolument que les personnes en RSA aient un investissement bénévole ou un investissement, etc. Parce que déjà, nous, on voit un certain nombre de gens qui sont engagés et qui se battent contre la pauvreté au quotidien. Donc ça, c'est un changer aussi le regard qui est posé sur l'opinion publique. Et puis, on essaye nationalement de défendre un certain nombre de choses en disant ben, « De fait, aujourd'hui, les minima sociaux sont tels qu'ils sont, soit, mais ils ne sont pas suffisants pour vivre. Il faut accepter d'entendre qu'ils ne sont pas suffisants pour vivre. Et qu'il y a un certain nombre de choses qui devraient pouvoir s'améliorer. Par exemple, nous, on défend ça, mais je sais qu'on n'est pas automatiquement entendu sur le fait que les personnes étrangères puissent, dès qu'elles arrivent sur le sol français, avoir le droit au travail, ce qui leur permettrait de pouvoir subvenir à leurs besoins. » Et de combler un certain nombre de manques aujourd'hui. Voilà. Mais je sais qu'on n'est pas entendu sur ce sujet-là, parce que ce sujet-là est extrêmement politique en tant que tel. Nous, ce qui ne nous intéressait pas à la question politique en général, c'est la question de la réalité des personnes. Il faut trouver des solutions, parce qu'on a besoin de pouvoir vivre ensemble. Et donc, on essaie de tenir un discours un peu ferme, en disant, c'est pas du misérabilisme, on a une place à jouer tous ensemble dans cette société, et on a la construire ensemble.
Alors Anne-Sophie Hébert, quand François Soulard dit que les gens ont des difficultés au quotidien, et comme vous, vous êtes chargée de l'accueil de ces personnes aussi, comment elles font? Qu'est-ce qu'elles vous disent? Quels sont les témoignages? Vous en évoquiez certains tout à l'heure, mais s'il y a moins de ressources, c'est-à-dire qu'on s'adapte, en quoi faisons?
Ce qu'elles nous disent, on l'a noté dans nos statistiques, plus de la moitié des personnes, ce qu'elles veulent d'abord en venant nous rencontrer, c'est de l'écoute. Voilà. Et ce qu'elles nous disent, c'est qu'elles ont trouvé de l'écoute. Alors, pas toutes, hein, malheureusement, mais voilà, ce qui compte, c'est qu'elles ont été accueillies, entendues, sans jugement, de façon, on va dire, inconditionnelle. François parlait des femmes étrangères. Une personne sur deux qu'on reçoit au Secours catholique est une personne étrangère. Ces femmes-là, bien souvent, n'ont pas le droit de travailler. Et donc, elles se retrouvent à gérer le quotidien dans des grandes difficultés. Donc, elles viennent nous voir parce qu'elles ont des difficultés financières et parce qu'elles ont besoin d'aide, mais aussi parce qu'elles ont besoin d'être accueillies quelque part, sans jugement, et un endroit où elles peuvent se sentir utiles. Un endroit où elles peuvent faire valoir leurs compétences. Elles deviennent bénévoles chez nous. Hein. Il y en a un certain nombre à l'accueil, vous les avez vues en arrivant. Donc voilà, c'est aussi ça qu'elles viennent chercher. Elles sont maintenues quelquefois plusieurs années, hein, sans activité. Donc c'est aussi ce que nous on peut offrir, et c'est aussi ce qu'on veut faire valoir, c'est-à-dire ces personnes-là veulent être utiles à la société, elles ont des compétences, elles savent le faire, elles demandent que ça, elles veulent travailler. Et donc voilà aussi ce que nous on essaye de vivre au Secours catholique.
Alors, vivre ces conditions-là, c'est extrêmement difficile. Vous évoquez notamment des revenus qui stassent, le coût de la vie qui augmente, des privations, se priver de loisirs, de transport, de chauffage, de relations sociales, de nourriture même, François Soulard.
De fait, aujourd'hui, les familles qui viennent nous rencontrer, elles ne sont pas dispensieuses, elles essayent de pouvoir gérer au plus près. Donc le premier sujet qu'elles vont essayer de tenir, c'est payer leur logement. Et puis après, voilà, on essaie d'avoir de l'eau, c'est à peu près ça. Mais le reste, je dirais, entre guillemets, l'électricité, bah, si ça coûte trop cher, voilà, bah, on chauffe moins ou on chauffe pas. Si on a un chauffage au fioul, bah, de fait, on ne fait pas remplir la cuve. Donc il y a un certain nombre de choses qui sont de nature comme ça. Et puis, de fait, s'il reste absolument rien, bah, de fait, on va plutôt aller chercher vers des associations caritatives de la nourriture, si c'est nécessaire. Donc c'est plutôt dans cette logique-là. Et puis après, ce qu'on entend quand même plus fortement pour les familles, c'est qu'elles ont un vrai souci pour la question de leurs propres enfants. Donc la question de la scolarité des enfants est un élément important. Donc il y a beaucoup de choses qui sont donc, dans les familles que l'on rencontre, d'une priorité qui est donnée pour leurs enfants. Et donc c'est plutôt bien, mais ça veut dire que les autres personnes sont prêtes, les autres personnes de la famille, les mamans, les papas, les mamans particulièrement, sont prêtes à se priver elles-mêmes sur d'autres choses. Mais on voit bien que c'est l'orientation, c'est on essaie de maintenir des choses liées au logement, et puis la question de la scolarité et l'avenir des enfants, et puis après le reste, tout le reste passe après. Et donc ça c'est un tout petit peu compliqué. Et donc c'est pour ça qu'on essaye de proposer des sorties culturelles, de proposer des différentes choses qui existent aujourd'hui au niveau du Secours catholique, pas toujours payant, en favorisant les choses qui existent aussi en termes de gratuité. Voilà, donc on essaie de pouvoir faire ce genre de choses. C'est pas une démarche simple, parce que c'est pas automatiquement une démarche où on s'autorise à pouvoir aller demander ce genre de choses. C'est-à-dire que si c'est pas nous qui proposons, elles vont pas venir nous dire « Est-ce que vous pouvez m'aider à pouvoir payer un ticket de cinéma ?» C'est jamais le type de demande que l'on a, évidemment. Mais ça fait partie des choses que nous, on doit aussi pouvoir proposer, parce que s'inscrire dans la société, c'est pas se fermer dans un ghetto. C'est un peu important de se dire ça.
Et le constat que vous faites, il vaut autant pour le milieu urbain que le milieu rural, ou est-ce qu'il y a des disparités ? C'est un sujet pour vous, ça,
c'est
aussi.
C'est un sujet pour nous, parce que c'est pas aussi si facile que ça à pouvoir mesurer.
Parce qu'en milieu rural, on est plus taiseux, c'est ce que certains disent, à moins que ce soit des clichés ou pas.
Ça veut dire qu'en fait... je vais prendre un exemple autrement. Il me semble qu'il y a plus de solutions possibles de débrouille en milieu urbain qu'en milieu rural. Et c'est souvent ça qui risque d'arriver. Ça veut dire que, de fait, aujourd'hui, si vous êtes à la rue au Mans, vous pouvez pas manger 3 repas par jour, ça c'est clair. Mais vous pouvez au moins manger une fois par jour en naviguant auprès des différentes structures qui existent. Si vous êtes à la rue en milieu rural, ça risque d'être un tout petit peu plus chaud quand même, hein, parce que l'offre est beaucoup moins forte, on va dire ça comme ça. Et il y a donc il y a quand même, nous, de ce qu'on voit des équipes rurales, c'est qu'il y a quand même que lorsque ces situations-là arrivent, il y a une vraie solidarité de proximité qui existe avec les bénévoles, qui est plus entre guillemets plus facile, parce qu'il n'y a pas multiples situations, il y en a une, et donc on arrive plus facilement à pouvoir trouver des solutions de bricolage, on va dire ça comme ça. Et c'est pour ça que je suis pas aussi, c'est difficile pour moi de dire c'est plus, c'est moins, c'est vraiment des réalités et des réponses qui sont différentes, parce que l'ensemble de nos équipes locales, elles agissent en fonction de l'environnement dans lequel elles sont. Une équipe où il n'y a personnes autour de, comme autre partenaire, si par exemple pas le Secours Pop et pas, les Restos du Cœur, ils vont être plus présents sur des questions alimentaires, ils vont être plus présents sur ce type de choses-là, ils vont être en partenariat plus fort avec la mairie, en proximité. Voilà. Donc c'est pas aussi, comment dire ça, vous nous posez une question qui est compliquée en fait à répondre.
Pensée complexe, pardon, allez-y.
Non, je pensais, en fait, on sait aussi qu'il y a des personnes qui ne viennent pas à nous. Et effectivement, je pense que c'est plus le cas en campagne qu'en ville où les associations sont visibles et présentes, ce qui est un peu moins le cas dans les zones plus rurales. Et il y a 2 ans, on a mené, notre équipe locale de ma mère, ça a mené un petit travail d'identification, en fait, de recherche sur les situations de pauvreté dans la région autour de Mamers. C'est une région de la Sarthe qui est particulièrement soumise à la pauvreté, et c'est une équipe qui n'était pas plus sollicitée que les autres. Donc on s'est bien rendu compte qu'il y avait des besoins qui n'étaient pas satisfaits et des personnes qui venaient pas nous rencontrer. Donc on a lancé un fraternibus qui existe depuis maintenant 1 an, et qui est une équipe mobile, en fait, qui se déplace et qui va à la rencontre des personnes sur les places de marché, dans les petits villages, pour essayer d'aller à la rencontre des personnes en offrant un café, en étant visible dans des lieux en dehors de nos locaux.
Et comment êtes-vous organisé au Secours catholique de la Sarthe, plusieurs bénévoles, les salariés ?
Nous sommes environ 450 bénévoles sur toute la Sarthe. Peut-être un petit peu moins maintenant, on a eu une baisse significative au moment du Covid. Voilà, des bénévoles qui ont arrêté, qui ne sont pas revenus. Ça recommence là gentiment à revenir. Nous sommes accompagnés par 5 salariés, donc François Soulard, et puis 2 animatrices, une qui est sur Le Mans et une qui est plutôt sur le reste de la Sarthe.
Et donc on a 30 équipes locales. Ça veut dire qu'on a petite dizaine d'équipes locales qui sont sur le Mans Métropole, et les 20 autres sont sur le rural.
Une quinzaine,
ok.
Alors, on a évoqué cette situation dramatique de pauvreté qui s'aggrave. Est-ce que on va se quitter sur du pessimisme ? Je ne pense pas que ce soit l'état d'esprit au Secours catholique, François Soulard.
Non. Nous, on a régulièrement des belles rencontres. On a des personnes aujourd'hui qui sortent de situations difficiles. On a des gens un cercle d'aide à la recherche d'emploi avec des gens qui sont mobilisés. Moi, de ce que je perçois, c'est qu'il y a quand même de l'espoir. Même s'il y a des difficultés financières, des difficultés de pauvreté qui sont très importantes, on voit un certain nombre de personnes bouger, se construire, imaginer un avenir possible. Et ça, pour moi, c'est extrêmement essentiel. C'est ce qui donne la motivation de se dire on peut construire, on peut vivre ensemble, on n'a pas automatiquement... on peut vivre ensemble, et c'est quelque chose qui est très important aujourd'hui pour l'avenir.
Mais il vous faut des moyens, non ?
Il nous faut des moyens, c'est tout l'objet de cette... C'est aussi l'objet de cette sortie du rapport statistique, c'est-à-dire c'est faire montrer les situations et voilà, éveiller à la solidarité. C'est aussi le début de notre campagne de fin d'année d'appel aux dons, parce que la majorité de nos dons arrivent en fin d'année, hein, jusqu'à Noël. Nous avons besoin d'argent, bien sûr, pour mener à bien toutes ces actions. Nous avons besoin de forces vives aussi, hein, je vous disais, on a un peu moins de bénévoles, donc que ce soit au Mans comme dans tous les coins de la Sarthe, on a besoin de bonne volonté. Il n'y a pas besoin d'avoir des savoirs particuliers, mais la volonté d'aller à la rencontre des personnes, si on a quelques heures par semaine, voilà.
On s'engage pour aider dans cette mission que vous assumez depuis, oulala, des temps...
Plus de 75 ans.
Plus de 75 ans, puisque le Secours catholique a plus de 75 ans, il est né en 46.
Voilà, et voilà, un rapport qui sort, c'est le 16 qu'il sort officiellement, le 16 novembre. Donc on est dans les temps sur Radio Prévert pour évoquer cette actualité-là. Et vous allez également vous adresser de façon... on va dire officielle, au pouvoir public, vous allez les rencontrer, est-ce qu'il va y avoir, comment vous dites ça dans le jargon, j'ai dit...
Du plaidoyer.
Voilà, des plaidoyers, justement.
Alors en fait, on a du plaidoyer qui existe sur la question de la pauvreté en général, ça c'est parce qu'on a toujours gardé du lien et du contact avec les pouvoirs publics, et puis on a quelques sujets où il risque d'y avoir un peu de plaidoyer du Secours catholique avec d'autres, notamment sur le sujet là qui risque de sortir, sur la loi immigration qui est en train de sortir. Mmh. On a besoin de pouvoir dire qu'on n'est pas totalement d'accord. Mais je vois qu'il y a des voix qui sont en train de monter aussi tout doucement, notamment sur la question de la suppression de... Alors là, on va rentrer dans le jargon.
L'aide médicale d'État.
L'aide médicale d'État, où il y a des voix qui disent mais c'est juste une aberration de santé, tout simplement, et une aberration qu'il faut sans doute pouvoir lever. Voilà. Mais après, je ne sais pas si on sera écouté, puisque de fait, ce débat-là est un peu trop politisé pour qu'il soit apaisé. Et donc nous, on est plutôt en train de dire, en termes de plaidoyer, posons les choses de manière apaisée et ne rentrons pas, ne définissons pas des lois dans un moment où il y a eu un attentat. C'est pas le moment de pouvoir faire ce genre de choses. Il faut le faire dans un climat apaisé pour qu'on ait vraiment un dialogue et qu'on puisse discuter sur des choses qui sont réelles et pas juste sur ce qui est du ressenti. Ne faisons pas des lois dans le moment de la colère, mais faisons des lois dans le moment de l'apaisement.
Anne-Sophie Hébert.
Oui, le rapport statistique, c'est l'occasion, oui, de faire du plaidoyer, c'est l'occasion d'intervenir auprès des pouvoirs publics. Je ne sais pas ce qui est prévu cette année, mais l'année dernière, Véronique Devise, la présidente nationale, avait pu rencontrer Emmanuel Macron à l'occasion de la sortie du rapport avec deux mamans. C'était déjà des femmes l'année dernière qui étaient mises en avant dans notre rapport pour témoigner de leur situation et faire valoir les besoins des personnes que nous accueillons chaque jour.
Peut-être que le préfet de la Sarthe ou le président du département vous recevront, vous, ainsi qu'avec vos collègues d'autres associations.
Mais vous avez raison, vous nous poussez à faire des choses qui seraient tout à fait justes.
Eh bien, on reviendra vous voir pour en parler, puisque vous le disiez à juste titre, François Soulard, il faut entendre aussi d'autres personnes, d'autres avis, d'autres opinions. On est justement sur Radio Prévert dans cette logique-là. La prise de parole, c'est ça aussi qui fait sens pour que chacun se sente reconnu en société, sans parler de pauvreté ou autre. Déjà, la dignité, c'est un mot qui est important à vos yeux.
Tout à fait. La dignité des personnes est un élément important et qu'on doit faire en sorte que cette dignité reste forte.
Eh bien, on reviendra vous voir de temps en temps pour parler avec vous de toutes ces actions que vous menez, puisque vous le savez, Radio Prévert, radio associative, a pour mission aussi d'accompagner les forces vives du territoire dont vous êtes, pour qu'on fasse œuvre de cohésion sociale. C'est entre autres une des missions communication sociale de proximité. On vous remercie de nous avoir accueillis dans vos locaux.
Merci beaucoup.
Nous vous remercions d'être venus jusqu'à nous. La prochaine fois, on viendra peut-être jusqu'à vous.
Avec grand plaisir. Il y a des collégiens qui font de la radio sur Radio Prévert. On sera très intéressés justement que vous puissiez les sensibiliser à toutes ces notions-là, à tous ces fondamentaux dont vous parliez ici même sur cette antenne dans le cadre de cette émission spéciale réalisée à l'occasion de la publication du rapport 2023 sur l'état de la pauvreté en Sarthe. Merci François Soulard, délégué départemental, Anne-Sophie Hébert, présidente départementale du Secours catholique. Donc à bientôt sur Radio Prévert.
À bientôt.
À bientôt.